France Culture. Les Midis de Culture. Marie Sorbier.
Imaginez une montagne de crêpes, un déluge de chantilly, de la mousse légère mais tout en volume, des feuilletés de dentelle. Alors non, je ne parle pas d'un repas de réveillon mais de robes confectionnées comme des pièces montées, des compositions complexes à étages qui transformaient les femmes du 19e siècle en choux à la crème et les premiers créateurs de mode en superstars. Mon invité aujourd'hui est non seulement le chroniqueur de mode le plus connu en France, mais il coud livre après livre une histoire de la mode revue et corrigée au prisme de son regard amusé et admiratif. Sortez vos crinolines, mesdames, vos hauts de forme, messieurs. Au menu ce midi, la hype des années 1880. Bonjour Loïc Prigent.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous écrivez sur la mode, vous alimentez votre chaîne YouTube aussi avec les coulisses des défilés. Vous êtes documentariste, on vous doit notamment le documentaire en 5 épisodes sobrement intitulé « Signé Chanel », visible toujours sur Arte. Et vous écrivez des livres, « 1000 milliards de rubans » et le troisième. Qu'est-ce que l'écriture vous permet que d'autres supports ne permettent pas ?
Ah, bonne question. L'écriture, ça permet de s'étaler, ça permet de s'intéresser à des choses sans avoir à convaincre plein de gens dans les belles chaînes de télévision. Que voilà. Donc ça permet d'être un peu plus invraisemblable, parce que c'est vrai que la télévision, c'est assez collectif. Il y a plein de gens qui choisissent, qui décident. C'est collectif, quoi. Alors que l'écriture, tout d'un coup, ça peut être beaucoup plus personnel et on peut approfondir des lubies ou se tromper. On peut passer 3 mois à aller chercher des choses. Là, ça fait 3 semaines que je m'intéresse à des plissés.
Vous avez dû convaincre un éditeur, quand même.
Pardon ? Oui, j'ai un éditeur qui dont la patience est élastique. Ouais.
L'élastique ?
Elle est élastique. Ouais, non, la patience est élastique, n'est pas l'élastique, pardon.
Ah, pardon. Puisque vous parliez des plis, je pensais à l'élastique. Mais non, c'était sa patience.
Désolée, je suis pas claire. C'est le 3 janvier, excusez-moi.
C'est ça. On est encore un petit peu dans les fêtes. Votre livre, 1000 milliards de rubans, apparu aux éditions Grasset. Nous sommes au mi-temps du 19e siècle. Ce sont alors les mariages royaux qui font la mode. Et dans cet essai, vous vous attardez sur les formes de vêtements, sur comment et pourquoi elles évoluent. Et surtout sur l'avènement de la mode telle qu'on la connaît aujourd'hui avec un créateur, des modèles et des grands magasins, mais n'allons pas trop vite et commençons là où vous choisissez vous de démarrer votre histoire de la mode, à savoir sous la crinoline. Alors vous n'êtes pas très tendre avec la crinoline, mais pourquoi vous avez choisi de commencer par là ?
La crinoline, il me semble que c'est vraiment le moment où tout va s'accélérer, où on passe justement d'un régime de mode royal, où il y a une personne qui décide, donc qui va être soit la souveraine, soit la maîtresse en cours. Et tout d'un coup, là, ça va s'accélérer, et parce que la presse est là, et que l'industrie aussi se met au diapason, et qu'on va pouvoir produire beaucoup plus vite, et aussi que le coton est beaucoup plus disponible, et tout ça. Enfin, bon, tout devient possible, en fait. C'est comme, c'est l'arrivée des Wi-Fi, mais au 19e siècle, quoi. Et du coup, la mode s'accélère vachement. Et c'est vrai que la crinoline, c'est la pyramide de Gizeh de la mode. C'est le truc le plus visible on la voit de la Lune, quoi. Et elle est très drôle. Elle est très caricaturée à l'époque, et les caricatures sont toujours très drôles, parce que c'est vrai qu'elle est très, elle est indécente à tous les niveaux, quoi.
Alors quand on vous lit, on se passe sans problème d'image, hein, tant vos descriptions regorgent de détails, de comparaisons audacieuses. On sent derrière vos mots votre œil acéré qui décode les formes et les matières. Mais que pour toutes et tous soient convaincus derrière votre poste, écoutons donc un extrait lu par Oriane Delacroix. Nous sommes dans les premières pages de votre livre.
La femme fortunée se doit de posséder une robe qui fait événement et qui, par son volume, empêche toute vie active. La voilà donc encore plus dépendante des cordons de la bourse de son époux hypercapitaliste. La crinoline est une déception. On rêve d'un fourmillement de pompons, mais on obtient un fourmillement de crottinettes. On pense fleurette, mais on obtient une gerbe. On pense séduction, mais les hommes ne peuvent plus s'approcher. On espère des ruissellements de rubans, des torrents de soie, mais on obtient des éboulis de ruchers. Tout cela s'amoncelle. On pense à un feuilleté de matières intrigantes, mais fatalement, on obtient une superposition fouillassonne de tabliers. On espère des robes comme des envolées des tourneaux sans sonnet, mais on obtient un carambolage de chouettes hulottes mauves à godets. On promet d'être divin et on ressemble à une balustrade. La crinoline, c'est aussi la femme qui n'a pas le droit, ni le temps, de douter, ou, on le verra, de bouger. Des tumultes d'étoffes, des poires capitonnées. On se jure que ce sera une apothéose, mais c'est un cataclysme de nœuds, de fronces et de frangasses qui écrase tout. Robes imposantes, symbole du succès de la bourgeoisie, robes parfaites pour aller cracher sur ces vulgaires peintres refusés au salon officiel. Entre Rubens et la façade du Crédit Lyonnais, la féminité est censée naître de nappages sans limite, de tentures cramoisies et d'un étalage de 1000 milliards de rubans. La crinoline qui permet 150 000 variations va dominer la mode française, et donc mondiale, pendant plusieurs décennies. Toujours renouvelée, elle va accélérer les modes jusqu'à accélérer sa propre chute. Alors que jusque-là, il fallait toute une génération pour que périclite une mode, celle de la crinoline dure à peine 15 ans. Est-ce l'arrivée de l'ascenseur exigu qui a exterminé la crinoline? Rien n'est moins sûr, car elle a survécu à 1000 autres inconvénients.
Je vous voyais avec un grand sourire, Loïc Prigent, en écoutant cette lecture.
C'est le plus beau jour de ma vie. C'était trop bien.
Le volume empêche toute vie active, la crinoline, c'est aussi la femme qui n'a pas le droit de bouger. Est-ce que le vêtement, c'est uniquement un apparat dans ces années-là?
Je ne suis pas concentré du coup, je suis sur le coup de l'émotion. Est-ce que le vêtement est un apparat à ce moment-là?
Oui, vous aviez l'impression
c'est étonnant, oui. C'est étonnant parce qu'on a l'impression, quand on voit les vêtements de jour, on a vraiment la sensation que ce sont des vêtements qui, aujourd'hui, seraient pour monter les marches à Cannes. C'est le volume est vraiment réel, quoi. Il y a vraiment... c'est très décoré, il y a beaucoup de couches, il y a des berthes, j'ai appris ça, des berthes.
Qu'est-ce que c'est des berthes?
C'est une genre d'écharpe qu'on pose comme ça sur le cou. Il y a des, j'ai assisté au dépeçage, c'est pas joli, mais à la restauration d'une robe forte dans les ateliers de restauration du Palais Galliera cette semaine, et vraiment il y avait 5 pièces différentes. C'est pas du tout une seule robe qu'on enfilerait, quoi. Il y a vraiment pas mal d'éléments pour constituer la robe, quoi.
Mais ce sont des robes qui empêchent.
Et c'est des robes qui empêchent. C'est des robes qui sont... Je suis pas sûr qu'on puisse lever le bras. On peut bouger le bras, mais ouvrir un placard qui serait au-dessus de votre tête, je pense que c'est compliqué. Courir, c'est impossible parce que la cage thoracique aurait du mal à respirer rapidement. Reculer est vraiment compliqué, je pense. Même se tourner, je pense qu'il faut vraiment après c'est une habitude physique, quoi. Il faut vraiment vous regardiez ce qu'il y a à vos pieds. C'est une négociation, quoi. Une négociation perpétuelle.
Par contre, ce grand volume permet aux femmes qui les portent parfois de pouvoir chaparder dans les magasins. C'est un des avantages de la crinoline.
Oui, il y a des rapports de police assez truculents où apparemment, oui, on y stocke des choses. Le 19e siècle invente la kleptomanie avec les grands magasins, ces étalages qui sont complètement infinis, qui sont vraiment une nouveauté à l'époque. Et la tentation de voler est rendue vraiment facile par ces grands volumes, quoi. Et donc, apparemment, on trouve vraiment des... Enfin, il y a des... Dans les journaux, il y a des rapports, des articles qui racontent qu'on a trouvé telle et telle personne en train de dissimuler les marchandises sous cette espèce de grande cloche, quoi. Faut bien que ça serve à quelque chose.
Exactement. Alors, je vous propose d'écouter Catherine Join-Dieter, la directrice en 2008 du Palais Galliera, qui présente une exposition intitulée « Sous l'Empire des crinolines 1852-1870 ».
L'empire de la crinoline correspond à une période qui commence en 1845 pour s'achever en 1869, donc 7 ans avant la prise du pouvoir par Napoléon III. On pense trop souvent au Second Empire seulement comme monde de la fête, mais ce n'est pas seulement ça. C'est une époque qui se modernise de façon extraordinaire, ne serait-ce qu'avec le port de la crinoline, qui n'est plus simplement un jupon en crin, mais qui est comme une coupole, comme ces coupoles qu'on voit dans l'architecture. C'est des cercles de métal maintenus par des bolducs et qui sont sous les robes, très légères, mais bien sûr, qui élargissent considérablement la jupe. Mais c'est une mode, je crois, de point de vue stylistique, d'abord et avant tout opulente. Opulente par ses formes, donc cette crinoline ronde ou projetée, par son imagination aussi, si je puis dire, puisqu'on adore les orner tous ces vêtements, soit de rubans, soit de franges. Donc opulente encore par ses accessoires et surtout ceux qui sont précieux, comme ces ombrelles marquises, qui sont d'abord et avant tout des objets de luxe.
Opulence et luxe, est-ce que ce sont toujours des mots que l'on associe à la mode ?
Toujours, oui. Une mode qu'on achète peut-être moins, parce que c'est vrai que l'opulence et le luxe qu'on voit aujourd'hui sur les défilés de mode sont pas forcément portés par la rue parisienne ou par la France. Ce sont des choses qui s'exportent, alors que la crinoline, elle est vraiment portée par Paris, par tout Paris, par plein de couches de la population et par la province aussi. Et par l'Europe, la Russie, les Amériques, c'est quelque chose qui s'exporte beaucoup. Et les usines Peugeot font, avant de faire des voitures, font des crinolines. Et les font en beaucoup, beaucoup d'exemplaires. C'est une mode qui est industrialisée.
Mais c'est une mode qui dure combien de temps ? Pas tant que ça, finalement. On parle de quoi ? De 15 ans, 20 ans ?
Donc là, elle nous dit 1845, circa 1869. C'est-à-dire qu'en 1870, quand les Prussiens arrivent, c'est déjà fini. Après, Vort, qui est son grand, qui est aujourd'hui son grand ambassadeur, lui, il en a marre assez vite, alors que c'est l'homme qui en a fait très, très vite. Après, il y a des crinolines qui deviennent des demi-crinolines. Enfin,
il y a des variations de crinolines.
Il y a des variations. Elles changent tout le temps, en fait. Elle évolue tout le temps, comme la mode aujourd'hui. Elle est plus la même qu'il y a 6 mois.
Alors, il y a deux événements majeurs pour l'histoire de la mode que vous racontez, Loïc Prigent. L'avènement du créateur qui signe ses œuvres et des grands magasins où l'on peut acheter des vêtements prêts à porter. Ça n'existait pas avant. La figure centrale de votre livre, vous venez de le mentionner plusieurs fois, c'est Charles Frédéric Vort, un Anglais, qui va poser les bases de la mode telle qu'on la connaît aujourd'hui.
À partir de Vort, il y a tout un mécanisme de la mode contemporaine qui se met en place. C'est-à-dire, non seulement il invente une discipline, la haute couture, qui explique aux femmes qu'elles vont renouveler leur garde-robe tous les 6 mois par des collections saisonnières. Il invente la saisonnalité, il invente le renouvellement des modes, il invente la position du sujet couturier, puisqu'il se sent très artiste. Il dit qu'à part Dieu et lui, il n'y a pas grand monde qui existe sur Terre. Et puis, ça n'a pas qu'une valeur narcissique, pour contredire les contrefaçons qui sont nombreuses, il décide de poser une griffe manuscrite de son nom, comme les peintres le font en bas d'étoiles, mais aussi pour reconnaître les vêtements. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque, les clientes ramenaient beaucoup de vêtements à réparer, à ajuster, et certaines se trompaient. Elles amenaient chez un couturier la robe qu'elles avaient achetée chez l'autre. Alors Vort a dit, ça suffit, on va pas continuer comme ça. Et il a inventé une forme de marketing, pour le meilleur ou pour le pire, on peut y réfléchir, qui est vraiment le nôtre aujourd'hui.
C'est l'historien de la mode, Olivier Saillard, vous l'avez reconnu, que l'on vient d'entendre. Pour le meilleur et pour le pire, le système Vort, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Il a tout à fait raison. Olivier Saillard est le plus grand historien de la mode aujourd'hui en France. Et c'est lui qui m'a appris que, justement, on dit pas Worth, parce que ça s'écrit Worth et qu'il est anglais, mais que lui, il est tellement snob qu'il veut qu'on le prononce à la française, parce qu'il veut absolument paraître français, et il veut qu'on dise Vort. Mais ce qu'il dit sur Dieu est vrai, c'est-à-dire qu'il invente aussi l'immortalité, c'est-à-dire qu'après lui, son fils Jean-Philippe reprend la maison, et la maison continue et va continuer jusqu'aux années 50. Et aujourd'hui, Vort pourrait ressortir et on achèterait du Vort, il pourrait y avoir des défilés Vort.
Mais à quoi ça ressemble une robe Vort, si vous deviez la décrire ?
Alors, sous monsieur Vort, c'est souvent, par exemple, il y a des verres qui sont à l'arsenic, ça c'est, je sais pas si c'est drôle, mais c'est peut-être amusant. Et c'est souvent, moi je le trouve assez monochrome, j'ai une notion de lui en tout cas monochrome dans des verts ou des bleus vraiment abominables. Il recouvre ça de ruchers, de volants, il décore une cloche qui est assez systématiquement la même. Le haut est un bustier qui révèle la gorge et flatte vachement le corps féminin, ce qui fait que c'est pour ça aussi que la robe est irrésistible. Et le scoop de mon enquête, c'était qu'au bout d'un moment, j'ai réalisé que Jean-Philippe est beaucoup meilleur que Charles Frédéric.
Donc le fils.
Le fils, c'est sublime. Sublime, sublime, sublime. C'est vers 1895 à peu près. Et c'est donc il y a pas mal de robes qui sont conservées au Metropolitan Museum de New York parce que beaucoup de clientèle est américaine.
Mais qu'est-ce qui change entre le fils et le père ?
Ah, mais c'est fou. C'est comme si. Il y en a un, c'est assez lourdingue, assez. Comment vous dire ? Ouais, c'est lourd. C'est lourd et gras. Alors que le fils, c'est de la ferronnerie d'art, c'est sublime, c'est des trompe-l'œil, on comprend pas où il redessine le corps de la femme, c'est beaucoup plus beau, je sais pas, c'est vraiment des œuvres d'art sublimes, c'est éblouissant le fils.
Qu'est-ce qu'il a initié Vort qu'on retrouve encore aujourd'hui ? On l'a entendu là, l'étiquette par exemple.
L'étiquette, le défilé, il est un des précurseurs. aussi de l'idée d'avoir plusieurs gammes, c'est-à-dire qu'il y a une gamme très chère, une gamme un peu moins chère, une gamme encore moins chère. L'ego du créateur, c'est vraiment lui qui l'invente. Avant ça, le créateur est un fournisseur. On le reçoit le matin et on l'assume pas vraiment, alors que après lui, le créateur est puissance invitante. Il vous invite chez lui. Il a un intérieur qu'on visite. Il y a des dîners et tout ça. Donc il inverse complètement la vapeur, quoi.
Alors l'accélération du changement de mode se met en place en cette fin du 19e siècle, alors que pendant tous les siècles précédents, les cycles étaient très longs. Est-ce que nous sommes toujours aujourd'hui dans cette accélération? Quelle est la durée de vie d'une mode en 2025?
Bonne question, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modes. Il y a des courants longs et des courants courts. La mode telle que je la vois sur les défilés, c'est des variations sur un même thème. Sur les 100 défilés à Paris, il y a peut-être une dizaine de marques qui proposent des choses extrêmement novatrices et qui cherchent à la... Alors, ça passe parfois par la troisième manche, donc, ou des choses absolument improbables, où on a l'impression de voir des déesses de l'Antiquité, la grande Antiquité égyptienne défiler, quoi. Donc, c'est des gestes artistiques. Et puis, il y a des choses beaucoup plus classiques. Les marques sont vachement, en ce moment, dans le ressassement perpétuel d'un ADN de mode qui a été mis au point il y a 50 ans ou 100 ans par des créatrices ou des créateurs dont la marque perpétue le premier geste créatif. Donc c'est le grand paradoxe, c'est que la France n'achète plus, les grandes maisons qu'on voit défiler ne vendent quasiment plus aux Français, c'est des touristes qui viennent acheter ces vêtements finalement. Nous, peuple, est-ce qu'on a les moyens de s'acheter des pulls à gris à 6000 euros? Non. Donc voilà, il y a une espèce d'inflation vraiment délirante de tenues. Aujourd'hui, par erreur, une maison m'a envoyé... J'ai demandé un descriptif des vêtements du défilé et ils me l'ont envoyé avec les prix. Et c'était 65 000 euros la silhouette, quoi.
Et ça vous
qui
semble...
Qui s'achète 65 000 euros? Et j'ai demandé, c'est de la haute couture? Enfin, je veux dire, est-ce que le processus qui a amené que cette robe coûte 65 000 euros était de la haute couture, c'est-à-dire quelque chose de fait sur mesure par des ateliers sans machine à coudre à la main et tout ça? On m'a répondu non, c'est du prêt-à-porter. Donc le luxe français est vraiment dans un délire en ce moment inflationniste où il faut parler. Le 1%, c'est déjà trop de monde. Il parle au 0,1%. Et ça suffit apparemment à faire des milliards. Donc,
Alors dans ce monde du luxe, vous avez inventé... Allez, je tente le mot, un genre littéraire que vous appelez le pépiment. Je trouve ça très joli comme mot, le pépiment. Et c'est encore Catherine Deneuve qui le dit le mieux.
C'était génial. Ce sera moche porté, mais c'était génial. Une vraie proposition, quoi. Alors, tu dis pas chiant, tu dis sublime. Tu dis pas rose, tu dis grenadine claire. Tu dis pas répétitif, tu dis fidèle à l'ADN de la maison. C'est pas blanc, c'est plâtre. Non, c'est pas tout à fait blanc. C'est vapeur. Oui, elle se parfume énormément. On l'appelle le Sephora à exploser. Elle habite où? Devant un miroir. Avec des fringues comme ça, elle a pas besoin d'ennemis. Oh, le défilé était génial. Ses stagiaires ont un talent fou. Oh, elle m'emmerde avec sa réalité alors qu'elle est complètement hors sol. Voilà, voilà. Attention, le sol est glissant à cause du champagne. C'était à son enterrement. Il n'y avait que des princesses italiennes et des masseurs. Arrête de penser logique, pense mode. Si les photos sont nettes, c'est que la soirée était ratée. Café ou champagne? Les deux.
Est-ce que ce sont toutes des vraies phrases, Loïc Prigent? Est-ce que vous les avez vraiment entendues, ces phrases?
Je peux même vous dire, certaines... attention, le sol est glissant à cause du champagne, je me souviens exactement où c'est. Ouais, il y en a où je me souviens exactement où ça a été prononcé, dans quel contexte. Et ça me fait encore rire, quoi. Je sais plus, l'enterrement avec les masseurs, je sais plus qui c'est.
Et les princesses italiennes?
Ouais, je sais plus qui c'est. J'oublie les choses après, mais bon, vaut mieux les oublier des fois.
Bah, vous les oubliez pas vraiment, parce que là, vous les avez non seulement écrites, puis il y a eu cette performance avec Catherine Deneuve, et ces phrases-là aussi, elles circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous utilisez, vous, ce canal-là? Qu'est-ce qu'il dit de la mode aujourd'hui, le réseau social, Instagram, TikTok? Est-ce que c'est par là que les choses passent?
Aujourd'hui, le renouvellement de la critique de mode est vraiment en train est arrivé par les réseaux sociaux, continue d'arriver par les réseaux sociaux. Ça a commencé avec ce qu'on appelait les blogueuses, les blogs. Donc avant, c'est vers circa 2012, un truc comme ça, ou 2010, on va dire 2010. Et du coup, il y a tout d'un coup arrive au premier rang. Ça a choqué plein de gens. Des gens avec un ordinateur sur les genoux et qui commentaient différemment la mode. Et ça changeait vachement parce qu'on était habitué à des classiques, des gens extrêmement lettrés. qui commentait les défilés pour des quotidiens, pour de la presse papier et tout ça. Et tout d'un coup, on a vu des uluberlus arriver. Et après, il y a eu les Instagrammeurs, les TikTokers et tout ça. Et
ce sont eux maintenant qui sont sur les premiers rangs?
Aujourd'hui, la parole, la critique de mode, elle n'a même plus forcément besoin d'avoir accès au défilé. Elle n'y va pas forcément. Et elle va commenter les torrents d'images qui sont déversés par les maisons et par les gens qui vont au défilé. Et de façon souvent très, très juste, acerbe. Une critique vraiment très, très bonne et d'un niveau... ils sont au même niveau que les grandes journalistes de mode des années 80 qui avaient passé 30 ans... à courir les défilés, quoi. Il y a vraiment une qualité de lecture de la mode qui est assez incroyable. Moi, ça m'hallucine. Hein. Sur TikTok, il y a vraiment des gens très, très bons.
Mais est-ce que ce sont des gens qui vont rester là longtemps? Avant, les critiques de mode étaient là plusieurs années, voire plusieurs décennies. Là, on a l'impression que ces influenceurs-là passent plus vite.
Et puis, les journalistes avant avaient l'accès aux créateurs, ce qu'ont pas forcément les gens sur TikTok, donc ils pouvaient vraiment poser des questions, ils pouvaient aller... Moi, j'ai cette chance inouïe, c'est que j'ai des previews, je peux toucher les vêtements, je peux poser des questions, je peux demander la liste des descriptions techniques et tout ça. J'ai de la chance là-dessus, par rapport à quelqu'un qui aura plus une attitude de troll et qui va... Mais qui c'est une critique qui est tout à fait recevable aussi, et parfois, la mode, c'est aussi un espèce de flash que vous avez dans la figure, et vous avez tout le monde a le critiquer, ce flash, j'ai l'impression. Mais il y en a des bons, hein. Il y en a des bons.
C'est rassurant.
Et indépendant, du coup, c'est très bien.
Alors, votre livre, 1000 milliards de rubans, se termine par un à suivre. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire les tomes suivants, Loïc Prigent?
Je suis à fond. Je me perds complètement dans les...
Mais alors, vous en êtes où?
Moi, j'en suis à...
On se quitte dans votre livre au tout début de Chanel, il me semble.
Oui, et alors, je ne sais pas si je vais reprendre de façon chronologique parce qu'on va s'ennuyer, et du coup, ça ne va pas forcément être chronologique. Mais non, là, j'ai découvert un truc incroyable, c'est qu'apparemment, les Américains interceptent, j'avais jamais lu ça, en 44, au printemps 44, les Américains interceptent des rapports de la Wehrmacht qui sont envoyés de Paris vers Berlin, où les soldats allemands, basés à Paris, sont complètement déprimés par les Parisiennes parce qu'ils sont dans les rues de façon... Et elles sont hyper coquettes et il y a vachement de broderies dorées. Donc il n'y avait rien pour faire des broderies dorées. Donc apparemment, elles récupéraient tout ce qui était doré et elles se faisaient des trucs dorés. Elles se faisaient des grands chapeaux et tout. Et ça a complètement sapé le moral des troupes allemandes parce que cette espèce d'insouciance affichée qui était une parade mais qui était de l'insolence. J'adore cette idée que les Parisiennes ont fait des doigts d'honneur aux forces d'occupation allemandes en étant sublimes et flamboyantes.
Donc on lira ça, par exemple, dans le tome 2.
J'espère. Il faut que je confirme ce rapport, quoi. Mais c'est un article du New York Times de mai 1944, écrit par Hélène Gordon-Lazareff, qui était réfugiée là-bas.
Donc, normalement, la source est sérieuse. La source est sérieuse. Alors, Loïc Prigent, il nous reste quelques minutes avant la fin de cet entretien, et je vous propose un petit questionnaire mode. Alors, toute l'équipe qui travaille pour cette émission a soumis des questions que je vais devoir vous poser par ma voix. Alors, il va falloir y répondre. Nous comptons sur vous. Ce sont les grandes préoccupations pour cette nouvelle année. Okay. Alors, il paraît que c'est une des recherches les plus fréquentes sur Internet, le retour du jean slim en 2025.
Oh, sérieux?
C'est ce qu'on m'a dit.
Je suis pas au courant.
Ah, vous êtes pas au courant?
On est dans la... Ah ouais, bah super. Non, c'est super. Faut jamais être contre la mode. Être contre la mode, c'est avoir tort. Donc voilà, faut se débrouiller, faut négocier, faut... Mais ça sert à rien de résister.
Mais vous y croyez pas beaucoup, j'ai l'impression.
Ah, je suis hyper surpris.
Très bien, nous verrons dans les jours à venir.
Ouais.
Olivier Rousteing dit que c'est la fin du quiet luxury. Vous en pensez quoi?
Oui, ça c'est vrai. Parce que le quiet et luxury, c'est un oxymoron. Le luxury, c'est la revanche.
Le léopard, éternel retour, ou
oui,
c'est la fin?
Folie.
Toujours?
Ah ouais, c'est une avalanche, on est au milieu de l'avalanche, j'ai l'impression. C'est vraiment un torrent inarrêtable.
Et l'alliance
du léopard.
Bah ouais, tout est tourant, voilà, du léopard. Est-ce que l'alliance du bleu marine et du noir, qu'est-ce qu'on fait? C'est oui, c'est non.
On fait ce qu'on veut. Saint-Laurent a dit qu'on pouvait, donc on peut. Monsieur Saint-Laurent avait dit ça à l'époque. Moi, je le fais. Et les oukases qu'on a pas le droit de les faire, faut les faire, de toute façon.
Ça, c'est une règle dans la mode.
Ouais, ouais, ouais. Et vous êtes chacun est libre.
Et Mathieu Blazy chez Chanel.
Ouais, bonne nouvelle.
Vous pouvez nous le présenter en quelques mots.
Mathieu Blazy, 40 ans, né à Paris, un pédigré exceptionnel puisqu'il est passé par Martin Margiela. Il a travaillé à New York aussi, donc il a une expérience de cette notion d'une mode américaine en mode domination mondiale, marketing, tout ça. Et Bottega Veneta, où il a, qui est une marque italienne, où il s'est confronté au savoir-faire, à l'artisanat. Il y a des collections qui étaient vraiment proches de la haute couture dans leur exceptionnalité. Donc,
qu'est-ce qu'il va apporter chez Chanel?
Les gens chez Chanel trépignent. Donc Chanel, son premier défilé sera début octobre 2025. Ça va être l'événement mode. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent dans plein de nouvelles maisons. C'est le plus grand mercato depuis le premier mec en fourrure dans une caverne cette année 2025.
Ah oui.
On n'a jamais vu ça.
Donc grande actualité mode 2025.
Énorme. Givenchy est repris par Sarah Burton, qui est celle qui avait repris Alexander McQueen après son décès. Les PDG Vals, les attachés de presse Vals, les créatrices et les créateurs Vals, c'est une année trépidante en termes de journalisme mode. C'est vraiment incroyable.
Et le mot qui va dire la mode en 2025, Loïc Prigent ? Attention, réfléchissez bien. Vous avez une responsabilité. Un mot.
Qu'est-ce que ça va être le mot de 2025 ? Faites ce que vous voulez, écoutez, je sais pas.
Venez comme vous êtes ?
Ouais, venez comme vous êtes. On s'en fout.
Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants dans ma chemise, combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres et 6 mois de galantes ivresses. Plus rien en Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé et puis vers ma jeune Amérique tu m'as pauvre mélancolique délicatement emballé. Mais je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage je me répétais avec rage une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal de sommes volées. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh,
je suis. Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Loïc Prigent d'avoir étrenné cette année 2025 avec nous. Votre livre
« 1
milliard de rubans » est disponible chez Grasset. Et pour poursuivre notre aventure tout en jupon froufrou et dentelle, sans risquer l'overdose, on se quitte en célébrant rondement la vie parisienne telle que composée par Offenbach en 1866.
Toute une fortune à croquer, le pigeon vient plumer. Prenez mes dollars, mes banknotes, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les jeux et les rires et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris, comme mène au bal d'Anière. Sache-le bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez, venez.
Cette émission a été préparée par Aïssa Touendoy, Oriane Delacroix,
bravo.
Boris Pinault,
bravo.
Marceau Vassy, Zora Vigné,
merci.
Lise Ripoche et Joanne Ossilio. Elle
Bonne
est réalisée
année.
Par Alexandre Fougeron et avec
ouais.
la technique Élise Le.
Bravo.